Alors, regardez, le sujet des cours, j'ai fait au feeling. Je ne prévois pas à l'avance tellement sur quel cours faire. Et ce cours, je pense, la plupart d'entre vous, vous étiez déjà présents à ce cours. Je le sais. Ça veut dire, on a déjà fait. Et c'est le thème principal du premier livre là, que je pense que vous avez aussi. Donc, c'est la répétition. Mais ce n'est pas la répétition parce que le sujet est nécessaire, me semble-t-il, pour se remettre dans le sujet. Si vous voulez, les études que je propose, ce n'est pas des idées intéressantes. Des idées intéressantes, il y en a partout. Il y en a chez les juifs, il y en a chez les non-juifs. Les gens intéressants, il y en a plein. Donc, c'est pas ça du tout qui m'intéresse de faire avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est de faire, on pourrait dire, une expérience intérieure, que l'étude de la Torah, c'est un travail intérieur. Par le texte, on travaille des choses à l'intérieur de soi-même et on progresse dans des choses importantes. C'est pour ça que des sujets qu'on a déjà étudiés, des sujets centraux, c'est nécessaire de les reprendre parce que le temps est passé. Je vous donne un exemple. Dans quelques temps, ça va être Rosh Hashanah. On va dire, bon, l'année dernière, c'était déjà Rosh Hashanah. Bon, ça va, on connaît. Hein, voilà. Ah, ça va, Rosh Hashanah. Ça, c'est bidon, on connaît. Encore, il nous sert ce truc. Il pourrait y avoir un truc nouveau. Regardez même, au cinéma, Ben Hur, ils l'ont fait il y a 50 ans, ils le refont. Donc, des trucs bien, il faut les refaire. Alors, ça veut dire... on a oublié Yom Kippour. On connaît. C'est bidon. Allez, cette année, on passe à autre chose, au bouddhisme. Non, ça veut dire... Il y a des choses, il faut les refaire pour les intérioriser. Alors, le sujet que je vous propose de voir ce soir, je pense qu'avec la plupart d'entre vous, on l'a déjà vu. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà... lu mon livre, et ce qu'on va voir, c'est le thème principal du livre. Voilà. Alors, c'est sur les repas de Shabbat, et on va faire sur le repas de vendredi soir. Pas sur la chéché, mais le repas de vendredi soir. Et je vous passe des photocopies du texte, donc, que vous connaissez, je pense. Je vous passe des photocopies. Pardon. Voilà. Donc, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne avant la fin de la page. Donc, c'est Koufiotret Abou Dalev dans le traité Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Bar Kapara. Kol Am Kayem. Shalosh Seudot be Shabbat, Nitzol me Shalosh pour Anouyot. Toute personne qui accomplit trois repas le jour du Shabbat est sauvée des trois malheurs. Me Chevlo Shel Mashiach, me Dina Shel Ginom, ou me Milchemet Gog ou Magog. Il est sauvé des souffrances de l'avènement des temps messianiques, des souffrances de l'enfer et des souffrances de la guerre de Gog ou Magog. Donc j'écris. Donc, la personne qui accomplit trois repas. Repas, ça se dit Seudot, n'est-ce pas? à Shabbat, cette personne est sauvée des trois malheurs. Premièrement, les souffrances de l'avènement du Messie. De l'enfer, c'est-à-dire la géhenne, comme on dit en français, la géhenne, et de la guerre de Gog et Magog. Alors, donc on voit qu'il y a les trois malheurs. Comme s'il y avait les trois malheurs. Il y a trois malheurs, il n'y en a pas quatre. Il y a trois malheurs. Il n'y a pas quatre malheurs. Bien. Et la personne qui fait des repas de Shabbat, qui fait des bons repas de Shabbat, est sauvée de ces trois malheurs. Bien. Maintenant, ce qui va nous occuper, là maintenant, c'est de l'enfer. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'enfer? Comme qui dirait, mais monsieur, je croyais que dans le judaïsme, il n'y avait pas l'enfer. Ok. Vous avez... souvent, on pose cette question, n'est-ce pas? Bonsoir. Hein, est-ce que... Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la gêne? Qu'est-ce que c'est cet enfer dont on parle? Voilà. Bien. Donc, la personne qui fait les trois repas de Shabbat... est sauvé des trois malheurs, des souffrances à l'avènement du Messie, de l'enfer et de la guerre de Gog et Magog. Alors, l'Agmara va rapporter des versets. Comment sait-on que la personne qui fait les trois repas de Shabbat, d'abord, d'où savons-nous qu'il faille faire trois repas le jour du Shabbat? C'est quoi les trois repas de Shabbat? Donc, encore une fois, je sais que plusieurs d'entre vous connaissez ce sujet par cœur. Oui, Yves, tu connais ce sujet par cœur parce que tu m'as dit que tu as lu le livre. Tu connais ce sujet par cœur. Jean-Pierre, je pense que tu as lu aussi le...
Par cœur, je sais pas.
D'accord, mais... Thierry aussi, non? Non? Tu ne connais pas par cœur?
Non, je
ne connais pas par cœur.
Non, je ne l'ai lu pas cette fois.
La prochaine fois, je vais faire des examens, attention. Ok, en tout cas, j'ai déjà pris ce sujet... Et c'est un, disons, je reprends sur ce sujet. Mais ça ne me gêne pas de le refaire, je fais volontiers, je le fais, ne serait-ce que pour moi, j'ai besoin de refaire ce sujet, personnellement. Ok. Alors, on apprend des versets. D'abord, d'où savons-nous qu'il faille faire trois repas le jour du Shabbat? C'est quoi les trois repas du jour du Shabbat? C'est à l'entrée de Shabbat, repas du vendredi soir, repas de midi, Shabbat midi, c'est la tafina, voilà, tafina, srina, tout ce que vous voulez, bien, et c'est au dashlichit, le troisième repas avant la sortie de Shabbat. Et on apprend la nécessité de ces trois repas du verset de la Torah. De quel verset? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous passe des photocopies. Bien. Alors, c'est le chapitre 16 dans l'Exode. Chapitre Tetzaïn dans l'Exode. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les enfants d'Israël sortent d'Égypte le 15 Nissan. Le 15 Nissan, les enfants d'Israël sortent d'Égypte. 15 Nissan. Voilà. 15 Nissan, il sort d'Égypte. Ils sont partis précipitamment et ils ont amené une galette qu'ils ont cuite à la va-vite. C'est les matzot. Hein, les matzot de la sortie d'Égypte. Pourquoi les matzot ont fait du pain qui n'est pas levé? Justement, parce que les enfants de matzot, parce que, on dit pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont sortis rapidement. Ils n'ont pas eu le temps que ça lève et machin. Il fallait sortir tout de suite, il ne fallait pas prendre son temps. On sort. Donc ils ont pris, ils ont fait cuire de la pâte, qu'ils n'ont pas laissé lever, et l'ont mis au four, blap, on part. Et ils sont partis à minuit, le soir du 15 Nissan, ils sont partis. Pharaon leur dit, on veut plus de vous, déguerpissez avec la mort des premiers-nés, on veut plus vous voir, déguerpissez. Et voilà, ils n'ont pas fait des casse-croûtes, la madame, elle n'a pas eu le temps de faire les sandwichs, et les trucs, et la salade de thon avec le riz et les concombres coupés en morceaux, elle n'a pas eu le temps. Ouais, il fallait sortir rapidos. Ils sont sortis. Okay. Un mois après, c'est-à-dire le 15 du mois de Iyar, on apprend du verset, le 15 du deuxième mois de la sortie d'Égypte, donc un mois après, ils n'ont plus de galettes. Ils ont demandé à Moïse, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'il y a un problème là, messieurs, dames? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème? Pas de problème, tout va bien. Ouais. tout, ça va, merci. Vous avez vu un problème?
Il y avait du bétail.
Il y avait du bétail, c'est vrai.
J'ai du bétail déjà.
Mais il y avait la reine.
Mais voilà, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu me sors?
C'est
la reine. Une seconde, doucement. On va y aller doucement. Décryptons. Que disais-je? Que les enfants d'Israël sortent d'Égypte le 15 Nissan et ils n'ont pas fait des casse-croûtes. Ils ont sorti la galette. Vous savez, la galette d'Agen, là. Vous voyez, les paquets de la galette, ils sont sortis avec la galette. Bien. C'est vrai, ils avaient des bestiaux, etc. Mais on ne parle pas de ces bestiaux. C'est vrai, ils avaient des bestiaux. Mais on parle au niveau de la base de l'alimentation, ils n'avaient que la galette. Au bout d'un mois, il n'y a plus de galette. Rachi explique que la galette qu'ils ont sortie dans les précipitations a duré miraculeusement un mois. Ça veut dire qu'ils sont sortis pour une famille, la boîte de la galette biton là, d'Agen. Pour toute la famille, une boîte. Et cette boîte, elle a duré un mois. C'est pas mal, non? Ça veut dire, le matin, ils ouvraient le truc, c'était encore plein. Okay? Et au bout d'un mois, toc, la boîte, elle est vide. Alors là, ils vont voir Moshe, on va dire, Moshe, pourquoi tu nous as sorti d'Égypte? C'est un scandale, etc. Machin. Rachi explique, qu'ils ont vécu miraculeusement, en vérité, pendant un mois. Dès que ce miracle s'arrête, ils commencent à rouspéter. Il y a un problème. Ils auraient pu aller voir Moshe, cher Moshe. Je vous lis le verset. Entre parenthèses, ils viennent de sortir de la mer Rouge. Bien. Entre-temps. Voilà, ils arrivèrent dans le désert de Sin, le 15 du deuxième mois, les enfants d'Israël se sont révoltés sur Moshe et Aaron en disant dans le désert, pourquoi tu nous as pas laissé mourir en Égypte et tu nous as amenés pour mourir dans ce désert? Rachi explique Pourquoi à ce moment-là, il commence à rouspéter ? Il rouspète parce que la manne, en vérité, ils sont sortis avec très... Pas de manne, pardon. La matza, l'azim avec laquelle ils sont sortis d'Égypte, a duré miraculeusement. Ce miracle s'est arrêté à un moment. Ils n'ont encore pas sauté à un repas. Mais comme ils ne savaient pas comment ils allaient se nourrir, ils ont commencé à rouspéter. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça ?
Ça leur semblait normal, le miracle de... Ça dure un moment.
Comment ?
Ça leur semblait normal, ce miracle dure un moment.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça fait un point. Non, parce qu'ils sont partis précipitamment. Ils n'ont pas apporté beaucoup. Et tous les jours, il y avait un... Ça leur semblait normal.
On dirait que ça paraissait normal. Je vais vous dire, moi je trouve ça une parabole de notre existence. Moi je trouve que c'est une parabole de notre existence. Je vais vous dire. Bon, là, tous et tous, ici, on est nés après la Seconde Guerre mondiale. Bien. Moi, si je m'introspecte, j'ai jeûné quelques jours. Ouais. Bon, Yom Kippour de temps en temps. De 17 Tammuz, de temps en temps. De temps en temps, j'ai sauté un repas. J'avais pas le temps de manger ou j'avais pas les nerfs. Mais j'ai jamais manqué un repas. Ça veut dire, hein, franchement, dans ma vie, j'ai jamais été dans la dèche telle que j'ai, par pauvreté, j'ai loupé un repas. Je pense ne pas être le seul. Hein, vous ? Qu'est-ce que vous rigolez ? C'est même pas drôle. En fait, c'est incroyable. Il pourrait plus y avoir une panne. Moi, je vois. Je n'ai... Des fois, il s'est passé des pannes. Il y a eu des pannes. J'ai eu un accident de bagnole, j'ai des trucs, des machins. J'ai eu des bidules. Mais louper un repas, je vois, il n'y a pas eu... Une fois, j'ai sauté un repas parce que je n'avais pas le temps. Mais manquer, parce que j'ai pas, je crois que dans ma vie, dans ma petite vie, ça ne m'est pas arrivé. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est absolument sidérant. Le robinet, là, de la bouffe, il marche. Imaginons qu'à un moment, ouais, le compte en banque, il est à plat, et le banquier, il dit, bon, il t'appelle, vous savez, maintenant, il faut trouver des solutions. Mais d'abord, quand quelqu'un m'appelle comme ça, je lui dis, vous, ça vous arrive jamais. Donc, quand le mec, d'abord, qui dit, vous êtes à découvert, machin, j'aime pas son ton. J'aime pas, parce que, je me dis, j'ai envie de lui dire, et je pense, j'ai déjà dit à quelqu'un, je lui dis, faites pas tellement intéressant. Vous, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Alors, vous baissez, hein. Bon, je passe mes insanités. Mais à part ça, nous, dans notre vie, on vit un miracle permanent. Même regardez, le fait d'être juif, c'est un miracle. C'est un miracle. Le fait que nous, nos parents nous ont dit qu'on est juif, mais c'est un truc, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire juive, tous les ballottements d'un continent à l'autre continent, d'une civilisation à une autre civilisation, des persécutions à d'autres persécutions, des trucs. Et qu'on est là ce soir, peinard. Bon, ok, à côté, il nous dit qu'on fait du bruit. Mais bon, à part ça, presque peinard à étudier la Torah. C'est incroyable. Et quand même, on se plaint. Vous trouvez ça que c'est normal ? Tout à l'heure, avant de venir, j'ai une conversation avec mon épouse. Ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet était le suivant. On a une amie qui s'est mariée, disons grosso modo, à 37 ans, 36 ans. Oh, la pauvre chérie, elle a tardé, machin, bidule. Elle s'est mariée à 36 ans. Okay. Elle était angoissée, est-ce qu'elle a un enfant, machin. Un an après son mariage, elle devient enfant. Et elle attend son deuxième. Elle dit à mon épouse, « Ouais, je m'entends pas bien avec mon mari, j'en ai marre. » C'est un enfoiré. Bon, nous, on ne vit pas ce qu'elle vit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Mais elle pourrait chanter du matin au soir. Elle ne savait pas si elle aurait des gosses. Elle attend son deuxième. Mais c'est la fête au village. Mais nous, c'est comme ça. Si on s'introspecte, ça devrait être la fête au village. C'est la fête tout le temps. C'est la fête au village. C'est l'air. Mais on est angoissé, pourquoi? Il va y avoir la prière, la primaire, il va y avoir la primaire de la droite, on ne sait pas qui c'est qui va être élu. La primaire à la gauche, c'est encore plus une catastrophe. Ça va être Donald Trump, Hillary Clinton. Mais on a... Non, ça veut dire, on sait pas, on est angoissé. Mais en vérité, si on s'introspecte, ça doit être la fête au village. Les enfants d'Israël, un mois, ils ont vécu un miracle. Et vous le dites très très bien, ça avait l'air de passer. Ils ne sont pas allés voir Moïse en disant « Dis-moi, là, qu'est-ce qui se passe pendant un mois ?» Ça passe. Il y a un miracle constant. Ils ne respectent pas. Un moment, ça s'arrête. Ils ne loupent, Rachi relève, ils ne loupent pas un repas. Ils vont voir Moshé. Ils vont voir Moshé. Ils vont dire « Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte ? On était mieux en Égypte, etc. Là, c'est angoissant, machin. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger ?» Moshé ne sait pas quoi faire, il demande à Hachem, et c'est là qu'il y a la manne. C'est là qu'arrive la manne. La manne, c'est quoi? Le mot manne, c'est pas un mot dans les cités. Ouais. Hey, manne. Ouais, non. Manne, c'est. La manne, ça veut dire c'est quoi? Donc la manne, ils ont eu le matin. Le matin, ils ont eu quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est. Ils demandent qu'est-ce que c'est. Voilà. Ils demandent à Moïse qu'est-ce que c'est. Moïse leur explique, ok, ça, c'est la réponse de Dieu. C'est votre nourriture dans le désert. C'est une nourriture qui sort de l'ordinaire. Une nourriture absolument... Alors là, ce n'est pas un semblant de miracle. C'est un miracle absolu. C'est un miracle absolu. Entre parenthèses, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dit « Pourquoi, dans Parashat Massé, c'est rapporté les 42 étapes que les enfants d'Israël ont faites dans le désert ?» C'est écrit « Ils sont passés de tel endroit à tel endroit, et de tel endroit, de tel lieu-dit à tel lieu-dit, de tel oasis à tel oasis dans le désert. » Pourquoi ? Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dit « Pour que tu comprennes que quand on te dit qu'ils étaient 40 ans dans le désert, c'est effectif qu'ils ont vécu 40 ans dans le désert. Ces millions de personnes, hommes, femmes, enfants, étaient 40 ans dans le désert. Et ce n'était pas une peuplade, c'était un peuple entier. 12 tribus, etc. C'est pour nous dire que ça s'est passé effectivement. Ils étaient à tel lieu dit, à la carte d'état-major numéro Tartampion. Ils étaient à tel endroit. Ensuite, tu peux regarder tel endroit ils étaient. Regarde sur la carte d'état-major, ils étaient à cet endroit et encore à cet endroit pour voir que c'était des lieux précis. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. C'est la mort. Et Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, vous prenez la manne, vous prenez une telle mesure, pas besoin de mesure de ce qu'on appelle le homer, qui est un dixième de Epha. Un homer, c'est un volume. Un volume, vous ramenez à la maison, il y aura un homer par personne dans vos maisons, pas besoin d'en prendre plus, parce que le soir, ça se liquéfie, pas besoin d'en prendre pour le lendemain, parce que le lendemain, vous aurez de nouveau, vous ne faites pas de soucis. Bien. Et c'est là où nous arrivons, ça a commencé le dimanche, ouais, le premier jour de la semaine, ok ? Et ils arrivent le sixième jour. Alors, regardons les versets. Je vous ai fait la photocopie. Regardez le verset 21. Verset 21, c'est la deuxième colonne. Vailkotu oto, baboker, baboker. Ish kofi ochlo vecham hashemesh venimas. Ils l'ont glané tôt le matin, chacun selon ce qui était nécessaire pour son manger. Quand le soleil se levait, la manne qui restait dans le désert se liquéfiait. Ça se liquéfiait, ça devenait des ruisseaux dans le désert. Voilà. Vayi bayom hashishi, laktu lechem mishne, shene haomer la echad, vayavou konesi haïda, vayagidou le moshe. Le sixième jour, donc le vendredi, ils ont glané la manne comme les autres jours, et toc, ils amènent un pain double, un double volume. Ils amènent, comme d'habitude, ils amènent dans la tente, eh bien, au lieu d'amener un volume, je ne sais pas, de 4 litres, ils se retrouvent avec 8 litres, 8 litres. Alors, ils ne comprennent pas. Ils vont voir Moshe, les chefs des tribus viennent voir Moshe, et ils racontent à Moshe comment ça se fait. Va yomer aleem, et Moshe leur a dit, « Ou Hacher diber Hachem, c'est ce que Dieu a dit, Shabbaton, Shabbat Kodesh Lachem Machar, c'est Shabbat demain. » C'est le premier Shabbat que les enfants d'Israël vont vivre. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissaient pas Shabbat. C'est le premier Shabbat. Et Moshe ne leur a pas dit à l'avance. Bien que Dieu avait dit à Moshe dans les versets bien avant, Dieu l'avait dit à Moshe, mais Moshe ne l'avait pas dit aux enfants d'Israël. Les commentateurs expliquent, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet, mais Moshe n'a pas voulu le dire aux enfants d'Israël. Il l'a pas dit aux enfants d'Israël, il a voulu qu'ils fassent l'expérience qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il a voulu qu'ils fassent l'expérience quelque chose de bizarre. Ils amènent la manne, toc, une double part. Il a dit pourquoi ? Demain, c'est un jour spécial. Qu'est-ce qu'il y a spécial ? Demain, vous ne trouverez pas de manne dans le champ. C'est pour ça, la veille, vous avez une double part. C'est pour ça que les repas de Shabbat, on prend deux ralotes. On fait motzi sur deux pains en souvenir de cette double mesure. Alors voilà. Verset suivant. Vayanichu oto ad haboker kasher tziva Moshe velo yivish verima lo haitabo. La double pain, ils l'ont laissé, donc si vous voulez, ils avaient un double volume le matin. Donc, le premier volume, c'était le repas vendredi midi, vendredi soir. Voilà, vendredi soir. Et ils sont angoissés. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec ce pain ? Est-ce que demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va leur rester donc la demi-mesure, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette mesure ? Est-ce qu'ils vont la manger samedi midi ? Mais s'ils mangent samedi midi, il est possible qu'il n'y aura plus jamais de manne. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment ça se fait qu'ils ont une double mesure. Vous voyez le problème ? Alors, le verset suivant dit « Vayanichu oto ad haboker » Le pain qui restait, la manne qui restait, ils l'ont laissé jusqu'au matin, comme Moïse leur a ordonné, et ça n'a ni pourri, ni il y a eu des vermines dans la manne. Il n'y a pas eu de vermines dans la manne. Pourquoi ? Parce que les autres jours, s'ils en laissaient, le lendemain matin, ça pourrissait, il y avait des vermines. Donc là maintenant, il n'y a pas de vermines, ils se demandent quoi faire. Est-ce que vous sentez le problème là ? Essayons de nous mettre dans la peau de ces gens. Donc, on sent le problème ?
Bah, ils sentent que ça change, justement.
Normalement, ils ont une mesure. S'ils gardent pour le lendemain, ça pourrit dans la nuit. Ça pourrit, il y a des vers, c'est dégoûtant. Donc, il ne faut pas en laisser pour le lendemain. Le vendredi, ils ont double part. Scrognonieux. Pourquoi double part ? Moïse leur dit, demain c'est Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat ? Shabbat, c'est un jour spécial. C'est un jour différent des autres. Il ne tombera pas de manne. Donc c'est pour ça, à l'avance, vous avez une double part. Ok, Moïse me l'a dit. Ouais, enfin, bon. Ça veut dire, si vous voulez, il y a des choses sur lesquelles on rigole pas. Moi, je dis, il y a deux choses dans la vie sur lesquelles on rigole pas. Le fric et le vin.
Mais c'est pas en rapport...
Hein. Excuse-moi, Jean-Pierre. Non, il y a des gens, par exemple, s'il y a une bonne bouteille de vin, il ne faut pas rigoler dessus. Moi, j'ai testé. Hein. Des gens, c'est, ils ont dit, ouais, bof. Ouais. Quoi, bof? Attends, c'est un super pinard, machin. Tout d'un coup, c'est des rigolos, ils deviennent plus rigolos. Ça. Quand tu parles du vin, rigole pas. Il y a un autre sujet sur lequel on rigole pas, c'est le fric. C'est quoi le fric? C'est la subsistance. C'est comment on va vivre. Comment on va vivre. Là, c'est la parnassa, c'est la subsistance. La manne, c'est s'il n'y a pas ça, on meurt. Donc, Moshe Rabbeinu, il nous a fait sortir d'esclavage. Ok, il y a eu les 10 plaies, il est allé voir Pharaon, il lui a dit « Let my people go ». Il est comme ça, Moshe, impeccable. D'accord. Très bien. Traverser la mer Rouge, on a tous chanté « Ah, c'est un chien !» Ok, mais maintenant, tout ça c'était bien, mais maintenant ça commence à être sérieux. La bouffe. Ça, c'est des choses qui deviennent plus sérieuses. L'esclavage, bon, c'est pas tellement rigolo, mais là, il y a des sujets, il vaut mieux pas toucher. C'est quoi? C'est la subsistance. Ils ont une double part. D'habitude, la deuxième part, si on garde plus, ça pourrit, ça moisit, il y a des vers de terre. Là, la nuit de ce jour appelé Shabbat, la deuxième part ne pourrit pas, et la deuxième part, il n'y a pas des vers de terre. Ils sont angoissés. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons le verset suivant. Yomer Moshe, verset 25. Vayomer Moshe, Ichlou Ayom, qui Shabbat Ayom, l'Hachem, Ayom, Lo Timtsaou Basade. Moïse leur a dit, mangez aujourd'hui. Ils étaient angoissés, peut-être cette manne qui reste, peut-être c'est la dernière manne possible, imaginable, il n'y en aura plus jamais. C'est le champ du cygne de la manne, et on n'en aura plus, peut-être il faut la garder, peut-être il faut la mettre au congélateur. Moshe leur dit, non, mangez aujourd'hui, ayez confiance, mangez aujourd'hui, car c'est Shabbat, c'est un repos aujourd'hui pour Dieu, aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans le champ. Les Rachamim disent que le fait que ça soit écrit trois fois aujourd'hui, c'est-à-dire Ayom, s'écrit Ayom. Ayom, c'est-à-dire aujourd'hui. Moïse leur a dit trois fois, mangez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans le champ. Par les trois occurrences du aujourd'hui, on apprend l'obligation que nous avons de faire les trois repas de Shabbat. Je sens que vous êtes convaincus, tous et toutes. Là, je sens l'adhésion profonde, le délire. Hein? Il y a le délire. Florence, on est en plein délire, n'est-ce pas?
C'est aujourd'hui qu'on prend vendredi et samedi.
Ça commence.
Comment?
Ce soir, c'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a vendredi et ça commence ce soir. Commence soir, soir
après. Il leur a dit...
Mais il leur a dit Shabbat matin.
Aujourd'hui.
Pour ça, ça ne prend pas le matin.
Une seconde, j'essaie de... Comment?
C'est aujourd'hui.
Non, il le dit Shabbat matin. Non, on est samedi matin. Samedi matin, ils se disent, est-ce qu'on va manger cette manne? On est samedi matin. Est-ce qu'on va manger cette manne? Il leur a dit trois fois aujourd'hui. Du fait qu'il leur a dit trois fois aujourd'hui, c'est de ce mot aujourd'hui qu'on apprend qu'il faut faire trois repas le jour du Shabbat.
Parce qu'il a dit trois fois.
Trois fois.
Ils l'ont déjà fait, hein. Ils ont déjà fait celui-là.
Ils ont déjà fait. Hein. Tous les commentateurs demandent, ils ont déjà fait un don. Mais il reste deux dons. Mais pourquoi il a dit trois fois? Bien. Mais en tout cas, c'est du mot aujourd'hui qu'on apprend la notion de manger le repas de Shabbat. Quand tu vois ça, c'est talmudique, si vous voulez. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire des études talmudiques. Qu'est-ce que talmudique? Ça veut dire qu'on y comprend... enfin, en premier abord, pas grand-chose. Le but, c'est de comprendre. Et le but, si nos maîtres... Vous savez, il paraît que les Coréens du Sud, Samsung, ont cherché comment ça se fait que les Juifs étaient intelligents. Et ils en ont déduit de manière scientifique que c'est l'étude du Talmud. Mais je ne sais pas s'ils sont à la hauteur, entre nous soit dit. Parce que c'est vraiment, le mot-clé du Talmud. Et c'est peut-être ça ce qui s'appelle l'intelligence, c'est que c'est complexe. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut étudier un passage du Talmud. S'il vous plaît, monsieur le rabbin, j'aimerais étudier un passage du Talmud, mais un passage simple. Je dis, c'est pas ici. C'est complexe. Je ne dirais pas compliqué, mais c'est complexe. Le but n'est pas que ça soit incompréhensible. Si c'est complexe, c'est qu'il faut faire une recherche. Le but, c'est cette recherche. C'est ça ce que nous allons essayer de faire. Oui.
Sur un jour normal, en Shabbat, il y avait combien de repas ?
Comment ? Deux. Deux.
Un jour normal, c'est considéré comme deux repas.
Deux repas. Comme ça, traditionnellement, on voit dans le Talmud, c'est toujours deux repas.
Il y en a un en plus.
Voilà, en fin de matinée et un le soir. Shabbat, un en plus. Bien. Le Maharal de Prague, que je cite souvent, au XVIe siècle, ces passages obscurs, il a travaillé beaucoup sur ces passages pour essayer de nous donner des clés pour comprendre quel est le problème. Le mot « ayom » veut dire « aujourd'hui ». C'est quoi « aujourd'hui » ? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui éclaire, c'est un éclairage. Comme chantaient nos maîtres à tous, les Beatles, Here comes the sun. C'est-à-dire, le soleil, lui, c'est le jour, c'est-à-dire c'est la lumière. Manger, c'est un éclairage. Manger le jour du Shabbat, c'est un éclairage de quelque chose. C'est quoi l'éclairage ? L'éclairage, on apprend de ces trois occurrences du mot « aujourd'hui » qu'il y a, comme on a dit, trois repas le jour du Shabbat. Vendredi soir, Shabbat matin et le troisième repas de Shabbat. D'après les kabbalistes, la thématique de ces trois repas sont complètement différentes. C'est pour ça qu'on nous dit que la personne qui fait les trois repas de Shabbat est sauvée des trois malheurs, souffrance de l'avènement du Messie, de l'enfer et de la guerre de Gog et Magog. La thématique de ces trois repas est complètement différente. Le mot ayom signifie quelque chose qui s'éclaire, qui se met à jour. C'est quoi qui se met à jour ? Nous allons, là, analyser le repas du vendredi soir. Le repas de vendredi soir, qu'est-ce qui s'éclaire dans le repas du vendredi soir ? Qu'est-ce qui s'éclaire le repas du vendredi soir ? C'est la dimension, on pourrait dire, dimension de justice. Pourquoi, dans notre tradition, Shabbat, et la base, c'est la base de la vie juive. Pourquoi c'est la base de la vie juive ? Pourquoi c'est la base de la vie juive ? On dit, vous avez déjà entendu ça quelque part, vous l'avez lu, je pense, dans 20 minutes, dans le journal, que nous, les juifs, on est monothéistes. Vous avez entendu ça ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit que Dieu est un ? Quand on dit « Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad » Écoute Israël, Dieu, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, ça veut dire plein de choses. Mais Maïmonide explique la chose suivante. La base du judaïsme, c'est le refus de l'idolâtrie. Maïmonide, au début des lois relatives à l'idolâtrie, explique la chose comme ça. C'est quoi l'idolâtrie ? L'idolâtrie, il dit que les idolâtres anciens ne niaient pas qu'il y avait un Dieu créateur. Pour eux, c'était évident qu'il y avait un Dieu créateur. Mais ils pensaient que ce Dieu créateur a créé la nature et ensuite la nature, elle suit son cours. C'est-à-dire, il a créé des choses extraordinaires et il a délaissé à ces choses extraordinaires la conduite de cet univers. C'est les forces de la nature. Mais à part ça, Dieu, il est loin. Il a fait son boulot, maintenant c'est la nature qui joue. Ça, c'est la base de l'idolâtrie. Dire que nous, on n'est pas idolâtres, c'est exprimer que le Créateur a un lien constant, intime, avec le monde dans lequel nous sommes. C'est ça, dire que Dieu est un. Dire que Dieu est un, c'est vivre au niveau intime que le Créateur a un lien constant avec ses créatures. Comment ça se traduit ? Par le Shabbat. Comment ça se traduit par le Shabbat ? Eh bien, regardez vendredi soir. Vendredi soir. Moi, je prends la parabole, souvent. Il y a quelqu'un, ici, on est à Paris, il a un boulot, je ne sais pas, il est ingénieur à la défense, ingénieur informatique, dans au 30e étage d'une tour de la défense. Et on est en hiver. En hiver, Shabbat commence 16h30. Ouais. On dit, Monsieur Lévy, alors lui, tous les Shabbats, il part du boulot à 15h, pour être chez lui pour Shabbat, puisque Shabbat commence à 16h30 en hiver. Ok. Bien. Alors maintenant, Monsieur Lévy, on lui dit, Lévy, 17h15, il y a une réunion du staff, là, c'est hyper important, il y a des actionnaires qui viennent des États-Unis, alors c'est hyper important que tu sois là à 17h15. Ah, ma merde, alors. Non, je peux pas. Il y a l'anniversaire de ma grand-mère, là. À 15h15, je dois partir. Non, mais je comprends pas. C'est toutes les semaines l'anniversaire de ta grand-mère. Et c'est surtout en hiver qu'est l'anniversaire de ta grand-mère. C'est un peu bizarre ton histoire. Bon, alors, ok. Alors, 17h15, on compte sur toi. C'est hyper important. Mais non, je peux pas être là. Non, mais attends. Mais si t'es pas là, mon gars. Mais. T'es pas irremplaçable, hein, tu comprends ce que je veux dire. Bon, on va voir. Il est possible que tu reçois une lettre recommandée dans les jours qui viennent, tu comprends. Puis l'augmentation que tu as voulu demander, l'augmentation. Bon, alors à 17h15, c'est bon. Ok, alors il a compris qu'il risque d'être licencié. Ok, il part comme d'habitude à 15h. Il rentre à la maison, il prend sa douche. Disons, c'est le... Shomer Shabbat, voyez ? Shomer Shabbat. Monsieur ou madame, hein, c'est unisex. Shomer Shabbat. Ok. Pourquoi il ferait ça ? Pourquoi il va faire ça ? Bon, parce qu'il est juif, c'est comme ça dans la Torah. C'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Tafresh Nunvav dans Shulchan Aruch, que même si on risque d'être sur la paille, les interdits de la Torah, c'est-à-dire si la vie est en danger, on repousse la plupart des interdits de la Torah. Si la vie est en danger. Mais être sur la paille, c'est la paille. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il est sur la paille. Il ou elle, il est sur la paille. Ok ? Bien. Ok. Il sait, il ne va pas transgresser ce qui est dans Shulchan Aruch. Il ne va pas transgresser. Dans la Torah, on doit respecter Shabbat, il respecte Shabbat. Bien. Donc il rentre à la maison, il prend sa douche, il va à la sina avec les enfants. Maintenant arrive le couscous. Comment il fait avec le couscous? Vous pouvez m'expliquer? Je m'adapte au public, hein, donc ça veut dire. Je ne suis pas de cette culture, mais disons, ma femme, de temps en temps, elle fait un couscous. Donc, je peux imaginer. Comment il fait avec le couscous, les enfants? Comment il fait? Il peut dire mon chéri, ça a l'air super, mais j'ai pas faim. Pourquoi tu n'as pas faim? J'ai pas faim ce soir. Okay. Ce soir, je ne sais pas. Je le sens pas. Il est... Mais attends, j'ai passé des heures à préparer, il est super appétissant. Ok. Alors, bon, il ne veut pas, pour pas plomber l'ambiance, il ne veut pas dire qu'il va être licencié. Ok, on a compris. Il ne veut pas raconter qu'il est licencié. Il ne veut pas raconter qu'il est licencié. Mais d'accord. Mais comment? Donc regardez, ici, c'est ça le sujet. C'est que manger de bon appétit le repas de Shabbat, manger de bon appétit, c'est l'expression, en vérité, qui n'est pas idolâtre. Do you understand?
Ça prouve qu'il a confiance.
Ça veut dire... Parce que c'est la différence entre la foi et la confiance. La foi, c'est intellectuel. Dis-moi, je suis ce qui est dans la Torah. Ce qui est dans la Torah, je respecte ce qui est dans la Torah. D'accord? Mais est-ce que tu as confiance? Est-ce que si Dieu t'a demandé de respecter Shabbat, ça veut dire que Dieu a un lien avec la réalité de ce monde? Et que si Dieu te dit que le Shabbat, on ne travaille pas, c'est que Dieu va te donner ta subsistance. À toi, tu ne sais pas comment elle va venir ta subsistance, parce que tu vas avoir ta lettre commandée avec accusé de réception. Tu vas l'avoir, ta lettre commandée avec accusé de réception. Mais tu vas vivre que Dieu, pas seulement il a créé le monde. Quand on dit que Dieu s'est arrêté. Ça veut dire qu'il s'est arrêté. Il te demande d'arrêter pour dévoiler qu'en vérité, le Créateur a toujours un lien avec sa création, avec ses créatures. Si toi, tu t'arrêtes le jour du Shabbat, eh bien, tu es en train d'exprimer. Pas seulement tu t'arrêtes, parce que s'arrêter, ça peut être une manière négative. Mais si tu manges avec délectation, c'est ce qu'on appelle le Oneg Shabbat. Le délice du Shabbat. Oneg Shabbat. C'est-à-dire le délice. Le délice du Shabbat, si tu as la possibilité d'avoir un délice, de te délecter, c'est que tu exprimes qu'en vérité, tu es accompagné par ton Créateur. Ce que tu fais dans l'existence, tu n'es pas tout seul. C'est comme les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Ils étaient accompagnés. Le mot Séouda, c'est pour ça que c'est très important, Séouda, en hébreu, veut dire accompagné. Soed, je crois que, entre parenthèses, en arabe, c'est pareil. Saïd, ça veut dire aider. Parlez pas à personne. Non. Bon. Alors, je crois que Saïd, en arabe, je ne sais pas comment on écrit avec des lettres arabes, mais ça veut dire aider. La Séouda, c'est qu'on est aidé, on est accompagné. Et ça, c'est le dévoilement. C'est pour ça, chaque mot de aujourd'hui, ayom, explique le Maharal, c'est un dévoilement. C'est un dévoilement. C'est un dévoilement que dans ma réalité prosaïque que je vis, je suis accompagné. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné. C'est la différence, au risque de me répéter, entre la dimension de foi et la dimension de confiance. La Emouna, on pourrait dire, c'est une dimension de foi, je crois, mais le bitachon, c'est la confiance concrète dans l'existence. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette étude que « Est-ce que le bonheur est une valeur juive ?» Je ne sais pas si vous avez vu ce titre un peu bidon. Que c'est, je dirais, une réflexion générale sur est-ce que dans notre vie, on peut avoir du bonheur ? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir ? Est-ce qu'on peut avoir du bonheur ? Pour avoir du plaisir, il faut avoir une confiance profonde. Si tu n'as pas une confiance profonde, tu peux kiffer, mais avoir du plaisir, ce n'est pas la même chose. Kiffer, c'est toujours possible. Mais avoir un plaisir, partager un plaisir, il faut être disponible. Mais si tu es toujours avec des angoisses, alors tu peux t'éclater, tu peux faire le con. Mais avoir du plaisir, il faut pour cela avoir une confiance très profonde. C'est ça, ça c'est la base du repas de Shabbat. Alors comment la personne qui fait le repas de Shabbat est sauvée du jugement de l'enfer ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Suspense.
Donc l'important, c'est la confiance ou la foi.
La confiance est plus forte que la foi. Plus forte que la foi, si je peux me permettre. Okay. Alors maintenant, on va voir de quel verset on apprend que la personne qui fait le repas, en tout cas de vendredi soir, le repas de vendredi soir, c'est le passage entre l'action, le monde de l'action, on est dans l'action, et le moment où on arrête l'action. Comment, quand on arrête l'action, on peut être serein ? Mais il y a plein de choses que tu n'as pas réussi à faire. Il y a un message que je n'ai pas réussi à faire, un coup de fil que je n'ai pas réussi à faire, un WhatsApp que je n'ai pas réussi à envoyer. Un mail que j'ai pas envoyé, un machin, un bidule, il y a un dossier qu'il faut absolument que j'envoie à Tokyo. Ah, mais comment je vais vivre ? Comment je vais possible ? Comment je vais m'en sortir ? Mais j'ai pas fait. Yom Zel Israël. Et tu t'arrêtes. Mais si tu t'arrêtes, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors ça te prend le trip, ça te prend le bide. Ça prend tes tripes. Comment je vais m'en sortir ? C'est là où la dimension de Eskakelosh Bokhu, simplement. Il a créé le monde, mais c'est de la théologie. Où on a un lien concret avec Akadosh Baruch Hu dans notre existence. C'est ce qu'on appelle la présence divine. On a une proximité avec le Créateur qui nous a dit de faire Shabbat. Qu'est-ce que c'est le jugement de la Géhenne ? Alors, regardez, on va voir dans le prophète Tsefania. Je pense que vous n'êtes pas tellement habitué au prophète Sephania, mais on va voir ça. Je vous passe des photocopies. Demandez le programme. Bien. Alors, Tsefania est un prophète à la fin de l'époque du premier temple, à l'époque du roi Yoshiyahu. Yoshiyahu, c'est quelques années avant la destruction du premier temple. Donc, ça fait combien de temps la destruction du premier temple, là, grosso modo, à Binné ?
2500.
Comment ?
2500,
2600, hein, grosso modo. 2600, c'est... Donc là, c'est 50 ans avant la destruction. 50 ans avant la destruction. Donc, 2650, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ok. C'est important de percevoir ça, que notre tradition, elle a du coffre. Hein. C'est pas un truc d'hier soir. Quoi. Hein. C'est important de le percevoir. Nous allons voir est un texte qui a 2700 ans. Ce n'est pas le prix Goncourt, vous voyez ce que je veux dire. C'est vieux, quoi. C'est... Bien. Alors, c'est un texte terrible parce que à l'époque du premier temps, il y avait des prophètes. Les prophètes étaient des personnes à qui Dieu parle et ils proclamaient la parole de Dieu. Il y avait beaucoup plus de prophètes que ceux que nous avons dans les écrits Kodesh, dans les écrits saints. Les écrits qui sont restés sont les prophéties qui ont un impact pour toutes les générations, jusqu'à la venue du Messie. Jusqu'à la venue du Mashiach, ces textes ont un impact, comme on va le voir tout de suite. Mais il y avait beaucoup plus de prophètes et de prophétesses. Dans notre tradition même, les femmes étaient plus prophétesses que les hommes. La prophétie est plus présente chez les femmes que chez les hommes, d'ailleurs. Mais les prophètes, comment dire, écrits, c'est une minorité des prophètes qu'il y avait à l'époque, mais c'est resté parce que ça a une portée qui traverse les générations. Ce n'était pas que des prophéties ponctuelles. Bien. Regardons le début. Donc le prophète Sophania, quelque part, décrit 50 ans avant, 60 ans avant, comment ça va se passer à la destruction du temple. Imaginez, c'est ce qu'on appelle les prophètes de malheur. Ça allait. Il y avait le temple, il y avait le roi, et il y avait quelqu'un, il arrivait, il décrivait qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans. Et il disait, repentez-vous, faites teshuva, parce que sinon, voilà qu'est-ce qui va se passer. Genre, ouais, bon, ça va, tu dramatises. Et c'était terrible, absolument terrible. Regardons les versets. De Bar Hashem, Asher Ayal, Tsefania, Ben Kushi, Ben Gedalia, Ben Amarea, Ben Chiskia, Beme Yoshiaou, Ben Amom, Melech Yud. Parole de Dieu qui était à Tsefania, fils de Kushi, fils de Gedalia, fils de Amaria, fils de Chiskia, à l'époque de Yoshiaou, fils de Amon, de roi de Judée. Asof, Asaf, Kol, Me'al, Peneadama, Neumad, Neumashem. Donc c'est un style sublime, un style sublime. Il y a, parenthèse, il y avait un grand professeur de psychiatrie qui s'appelait le professeur Henri Baruch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du professeur Henri Baruch. Il s'est trouvé que j'ai bien connu ce professeur Henri Baruch. Et c'était un très grand professeur de médecine. Il est décédé au début des années 90. Il était plus que centenaire. Et il nous racontait, j'allais avec des amis l'écouter. Il était plus que centenaire quand on allait le voir. Parce qu'un de mes élèves était psychiatre, l'avait connu. Et donc, comme c'était quelqu'un de hors catégorie, on est allé plusieurs fois l'écouter. Il nous racontait, il était médecin-chef à la bataille de Verdun, vous voyez. Et c'était un juif égyptien, très vibrant, extrêmement vibrant. Et il a été pendant 30 ans directeur du grand hôpital de Charenton. Quand on dit Charenton, on t'envoie à Charenton, à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Et lui, il était directeur pendant des années de Charenton. Et quand il a pris sa retraite, il y a le ministre de la Santé, c'était à l'époque de Gaulle, qui est venu au banquet qu'ils avaient fait à son honneur quand il a pris sa retraite. Et le ministre de la Santé, très vieille France, style gaulliste, gaullien, me dit, monsieur le professeur, quel est le secret de votre vitalité, Il a dit, monsieur le ministre, tous les jours, je clame de l'hébreu. Il nous a dit ça, il fallait voir la tronche du ministre. Il dit, tous les jours, je clame de l'époque. Et vraiment, on va voir ça. Que le style prophétique, il faut le clamer. Et voilà qu'est-ce qu'il va dire le prophète. Asaf, Asaf Kol Me'alpene Adama. Je vais tout enlever de la face de la terre, dit l'Éternel. Asaf Adam ou Bema, Asaf Of Hashamayim ou Degeayam, va mercholot et ta rechayim, vechati et ta Adam, Me'alpene Adama, Neumashem. J'enlèverai l'homme, l'animal, j'enlèverai les oiseaux des cieux, les poissons de l'océan et tout ce qui fait trébucher les impies. Je retrancherai l'homme de la face de la terre, dit l'Éternel. Natiti yadi al Yehuda v'kol yoshvei Yerushalayim. Je tendrai mon bras sur la Judée et tous les habitants de Jérusalem. V'chati min hamakom hazeh et she'ar ha-ba'al v'et shem ha-kemarim im ha-kohanim. J'enlèverai de cet endroit le Baal, c'est-à-dire les idoles, le nom des prêtres avec les Kohanim. Vetamishtachavim à la Gagot, la Tsevash à Shamaïm, Vetamishtachavim, Vanishbaïm, Lachem Vanishbaïm et Malkam. Je retrancherai ceux qui se prosternent sur les terrasses aux constellations des cieux, ceux qui se prosternent et qui jurent au nom de Dieu et qui jurent aussi dans leurs idoles, etc. Regardez le verset Zayin 7. As mipne Hashem Elokim. Silence devant l'Éternel. Ki karov yom Hashem. Ki echin Hashem zeva igdish keruav. Verset terrible. Silence devant l'Éternel, car proche est le jour de Dieu, car Dieu a préparé l'égorgement, il a préparé ce qu'il a destiné à cet égorgement. Donc, il a dit, il prophétise que Dieu va organiser un égorgement général. Mais d'après ce que nous avons vu, vous pouvez voir que le texte dit Dieu a préparé le jour l'égorgement. D'après la thématique que nous avons vue, le jour d'égorgement, c'est pas tellement un jour, c'est plutôt une obscurité. On va voir ça dans la suite. Regardons dans la suite. Verset 8. Vaya beyom zevar Hashem, ou fakadoti al asarim val bene ameler valovshim malvush nochi. Le jour de l'égorgement où Dieu égorgera, je demanderai des comptes aux princes, aux fils du roi et à tous ceux qui s'habillent des vêtements non juifs. C'est quoi qui s'habillent des vêtements non juifs? Comment?
Non, ça n'existait pas déjà.
Il porte un tenis, oui.
C'est-à-dire que même à l'époque où il y avait le temple, être juif, c'est difficile de ne pas être comme les autres. C'est se démarquer. Se démarquer, il y en a, il dit. Il s'habille, il y a le temple, il y a le roi juif, etc. Mais bon, on est à la mode de Paris. Je veux dire, c'est une manière de ne pas s'assumer. Je veux dire, il demandera des comptes à ceux qui prennent des habits de non-juifs. Une seconde. Regardez dans la page d'après, le verset 12. Vaya ba'etai, c'est un verset extraordinaire. Vaya ba'etai, achapes et Yerushalayim banerot. Ufaka de tia la nashim akofim al shimrehem aomrim bilvavam lo yetiv Hashem velo yareh. Ce jour-là, dit Dieu, je scruterai Yerushalayim avec des bougies et je demanderai des comptes aux hommes qui sont gélifiés sur leur lit de vin, qui disent dans leur cœur, Dieu ne fait ni le bien ni le mal. Regardez ici, c'est quoi les gens qui sont gélifiés sur leur lit? Pas L-I-T, mais L-I-E.
Nos contacts.
Ils sont englués dans les choses qui ne font pas bien.
Comment ?
Ils sont englués dans leurs péchés, dans ce qui ne font pas bien.
Pas forcément dans leurs péchés. L'expression.
Leur torpeur.
Tu vois, par exemple, le bon vin, la lie de vin. Tu vois ? T'as le tonneau. Le tonneau, il faut laisser reposer pour que les petites impuretés du vin aillent au fond, pour que le vin devienne bien, mûrisse bien. Donc c'est des gens, il faut pas les perturber, ils sont tranquilles. Don't disturb. Surtout pas, ne me secouez pas, ne me remettez pas en question.
Ah, d'accord.
Ça veut dire tranquille, voilà. pas de secousse. Mais l'image, ils sont gélicophim en hébreu moderne, cafouille, ça veut dire congelé. Ça veut dire ils sont congelés, tu vois. Ils sont congelés. Cafou, ça veut dire c'est gélifié, congelé. Tu vois, par exemple, tu as la gelée, des fois dans le poisson, dans la viande, tu as de la gelée, ça fait ploc, ploc. Tu vois, c'est ça l'image. Des gens, ils sont ploc, ploc. Tu vois, si tu bouges, ils font ploc, ploc. Mais ça, c'est une image. Dieu va scruter et va chercher ceux qui ne veulent surtout pas qu'on les dérange, qui sont dans leur système. Et surtout qu'on ne les dérange pas. Et dans leur cœur, ils pensent que de toute façon, il n'y a pas de justice. On fait nos petites histoires. Et Dieu, de toute façon, n'en sait rien. Il s'en fout. Donc, je fais ce que je veux. Et don't disturb. Voilà. Ça, ce jour-là, Dieu, ces gens-là, il va dire toc, toc. Je suis là. J'allais dire le mot de Cambronne. Et alors là, ça va faire mal. Les enfants, ça va faire mal. Ça, c'est ce qu'il dit le prophète. Ça va faire mal. Pourquoi ? Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. Toi, tu penses dans ton cœur. Mais Dieu va montrer que non, il y a une justice ici. Il y a une justice. Que tu le veuilles pas, cette justice va s'appliquer. Et tout le monde va voir qu'il y a une justice qui s'applique. C'est ce qu'il dit le prophète. Je reprends ce verset bouleversant. Vaya ba'etai. Entre parenthèses, l'hébreu, je vous conseille de clamer de l'hébreu. Le professeur Henri Baruch, ça m'a beaucoup plu. Parce que l'hébreu est une langue très particulière. Il y a des sons en hébreu. Par exemple, en français, il y a des sons qu'on ne trouve pas du tout en hébreu. Par exemple, le « on »,« en »,« on »,« on », »,« en », »,« un », ça n'existe pas en hébreu. Lorsque vous parlez, par exemple, en hébreu, vous dites « ni on », »,« ni en », »,« ni brin », »,« ni un », »,« un ». En vérité, je ne veux pas offenser la langue française, mais ça fait un peu préhistorique, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait « rang », vous voyez le... Vous traduisez « raon » en hébreu, ça ne marche pas. Parce que « raon » en ou « konon » Conan, en barbare. Oui. Conan. Hein. Il n'y a pas en hébreu. On a trouvé autre chose. Donc il y a une sonorité très particulière. Chaque langue a ses sonorités. L'hébreu a une sonorité très particulière qu'on sent dans ce verset. Ce jour-là, je scruterai Jérusalem avec des bougies. Je demanderai des comptes aux gens qui sont gélifiés sur leur lit en disant dans leur cœur, Dieu n'y fait ni le bien, ni ne gratifie, ni ne condamne. Vayacheilam limshisa ubatem lishmama. Obanu batim velo yeshvu, natuk rami velo yeshtu yetienam. Leur puissance sera délapidée, leur maison désolée. Ils construiront des maisons, ne s'y installeront pas, planteront des vignes, ne boiront pas le vin. Karov yom Hashem agadol, karov umaher meod. Il arrive tout de suite, le jour de Dieu. Gadol karov umaher. Très proche, très rapide. Kol yom Hashem. Ce verset terrible. Ma'er meod. Kol yom Hashem. Le cri du jour de Dieu. Mar et ta mère. Tsorear sham gibor. Le vaillant, le héros hurlera. Tsorear, le mot tsorear en hébreu. La traduction précise de tsorear. Comment ?
Brûlant.
Oui. Soréa. Soréa, oui, en hébreu moderne ? Oui.
Soréa, ta garole, ça brûle la gorge.
D'accord. Mais le sens précis de Soréa, je suis désolé, mais les commentateurs expliquent. C'est le mot que tu dis.
Soréa, c'est
le. Oui, mais la traduction précise, c'est le hurlement que tu prends quelqu'un avec la main, tu le prends la gorge, tu arraches et il hurle. Essaye. Tu verras. Ça fait du bruit. C'est ça, Tsoréar. Tsoréar Shandibor. Il hurle, le héros. Yom Evra a Yom Aou. Jour de colère, ce jour-là. Yom Tsara au Metsuka. Un jour de malheur et de détresse. Yom Shoah au Meshoah. Un jour de Shoah. Le terme Shoah vient de ce verset. Vous avez déjà entendu le mot Shoah. Il vient de ce verset, comme je vous ai dit, il y a 2700 ans. Shoah, c'est-à-dire c'est un jour de perplexité. Jour de perplexité. Yom Chosher Ve'afela, un jour d'obscurité. Yom Chosher. Est-ce que cette expression, elle va bien ? Ça va pas. L'obscurité, c'est pas un jour. Exactement. J'allais le dire. Ça va pas. Un jour de. L'obscurité, c'est pas le jour. Mais d'après ce que le Maharal nous a expliqué, que ce malheur-là est un jour. En quoi c'est un jour ? C'est le dévoilement qu'il y a une justice sur terre. Cette justice n'est pas constante, mais arrive un moment où une justice se concrétise. Et ce jour, il est vécu comme une obscurité, mais c'est le dévoilement de la justice de Dieu. C'est ça, la réponse à celui qui dit « Oui, mais Dieu a abandonné ce monde-ci, il n'y a pas de justice, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon. » Hein, qui c'est qui nous voit ? Dieu ni y gratifie, ni punit. On se débrouille, on fait un petit business, tranquille. Un jour, non ! C'est ça ce qu'il dit le prophète. Un jour, non ! La justice s'applique. Yom, c'est un jour terrible. Yom Evra. Evra, alors c'est ça ce qu'on appelle quand le Talmud dit que celui qui fait le repas de Shabbat est sauvé du jugement de l'enfer, c'est ça l'enfer, la géhenne, c'est ça l'enfer dont on parle. Mais mes amis, en quoi la personne qui fait le repas de Shabbat est sauvée de ses malheurs ?
Parce qu'on a compris
Comment ?
On revient au histoire de la confiance. Hein.
Oui, mais on en rajoute un petit peu là, puisque on est dans le couscous, un peu de sauce, un peu de, un petit peu de, on rajoute un peu. Regardez, tout de suite, regardez la fin du verset, c'est très important. La fin du verset est extrêmement importante. Yom Shoah, Meshoah, un jour de dévastation et de ruine, un jour d'obscurité et de pénombre. Yom Anan, Varafel, un jour de nuages et de brouillard. Entre parenthèses, cette expression qui a été exprimée par le prophète Sephania il y a 2700 ans, dans la Seconde Guerre mondiale, les déportations des Juifs dans les camps d'extermination avaient un nom de code qui s'appelle Nacht und Nebel. Nacht und Nebel, Nebel, ça veut dire Nacht und Nebel, ça veut dire nuit et brouillard. Ils disaient pas où ils envoyaient, c'était opération nuit et brouillard. Mais quand moi j'ai étudié ces versets, je me suis dit, regardez, c'est exactement ce que dit ce verset. Un jour de nuages et de brouillard. C'est la traduction du verset. Mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui étaient Shomer Shabbat, qui ont mangé même qui ont mangé le repas de Shabbat, qui ont été massacrés là-bas. Alors comment celui qui mange son couscous ou son gefilte fish, en passe être des meilleurs, ou son coudoir farci, ouais, comment toi tu dis qu'il est sauvé du Guinam? Il y en a qui ont été massacrés quand même. Pourquoi le Talmud dit que la personne qui fait le repas de Shabbat et, d'après le Maharal de Prague et le prix de Sadik de Rabbi Tzadok HaKohen, on parle ici du repas de vendredi soir, c'est le jugement de l'enfer, comme on vient de le voir. Pourquoi celui qui fait le repas de Shabbat est sauvé du jugement de l'enfer? Mais tu as des gens, ils font repas de Shabbat en chantant les chants de Shabbat, et alors, comment ils sont sauvés du jugement de l'enfer? Ça veut dire quoi, cette histoire?
Parce qu'ils continuent d'avoir confiance. Du coup, ils ne peuvent pas être atteints par ce brouillard.
Très bien, c'est parfait. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je reprends ce que vous dites, c'est très bien. C'est parfait. C'est-à-dire, même si la personne, ça lui arrive un truc comme ça, parce que ça peut arriver. On ne dit pas que de manière magique, ouais, tu prends une fois du couscous, ouais, tu n'as pas d'infarctus. Deux fois du couscous, pas de persécution, pas de pogrom. Non, c'est des conneries, je veux dire. C'est pas ça. Mais je reprends ce que vous dites. Ça veut dire, ça peut arriver à cette personne, que Dieu nous en préserve. Ça peut arriver. Mais si cette personne, elle a vécu le délice du Shabbat, comme on a parlé tout à l'heure, elle a vécu le délice du Shabbat. Même s'il lui arrive des choses terribles, que Dieu nous en préserve, elle n'est pas détruite par ça. Elle sait que c'est une justice. Même si la justice divine, on ne la comprend pas. Personne ne peut ne pas comprendre quelle est la justice divine. Le Talmud, dans le traité Psachim, dit qu'il y a sept choses que l'homme ne peut pas comprendre. Une des sept choses, c'est la justice divine. Comment Dieu juge les choses, nous, humains, ce n'est pas dans nos capacités. On peut ne pas comprendre le fond de cette justice, mais vivre que ça ait un sens et que ça correspond à une justice, même si je ne la comprends pas, ça oui. C'est ça ce qu'on voit ici. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que, même si ce texte, je l'ai vu, c'est un texte que j'enseigne souvent, mais on a besoin de se raviver ça, que les choses les plus importantes de l'existence, elles se passent dans la capacité de construire en vérité son bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une dimension matérielle et superficielle. Le bonheur, c'est une construction et c'est l'expression d'une confiance puissante. On peut construire un bonheur et même avoir la disponibilité à ce bonheur que si en vérité on a une confiance très profonde sur les fondements de l'existence. Je prends un exemple parce que le véritable bonheur, c'est partager le bonheur. Comme on parle des repas de Shabbat, un repas de Shabbat, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vécu un repas de Shabbat tout seul dans un hôtel Ibis à côté une zone commerciale, ça peut arriver d'être tout seul dans un hôtel Ibis, dans une zone commerciale, des fois dans l'existence peut faire qu'on peut être. Mais ce n'est pas en vitesse de croisière que c'est comme ça le Shabbat. La vitesse de croisière, c'est qu'on partage le Shabbat, on vit le Shabbat avec sa famille. Mais pour partager ce moment de bonheur, de sérénité, ce n'est pas simplement que je m'arrête et je passe un bon repas. C'est pour être détendu là-dedans, il faut une construction intérieure, une disponibilité. Le bonheur, c'est disponible au bonheur. Et on a vu à d'autres occasions que le troisième repas correspond, Seudah Shlishit correspond aux souffrances de l'avènement des temps messianiques. Le Maharal explique que Seudah Shlishit correspond en vérité au devenir, parce qu'on va sortir du Shabbat. Et maintenant, c'est notre angoisse. Rentrer dans le Shabbat, tu es angoissé, que quelques minutes avant, tu étais dans le feu de l'action, maintenant tu t'arrêtes. Maintenant, sortir du Shabbat, maintenant, tu as tout ce que tu as à faire dans la semaine qui te vient, et c'est la confiance dans le devenir. Pour pouvoir être disponible de manière générale au repas, partager un repas avec les siens, il ne faut pas seulement une confiance sur d'où vient ma subsistance, que je suis accompagné, mais il faut aussi la confiance dans la relation avec les gens avec qui je partage ces repas. Parce que des repas, souvent, des repas de famille, il y a les tensions qui ressortent. Ouais, il y a les enfants qui te regardent d'un air, les ados, tu as l'air comme si... Il te regardait comme s'il pensait que c'est comment ça se fait que Dieu a fait que j'ai les parents les plus cons sur terre. Ouais. Il te regarde à l'air absolument convaincu. Et le pire, c'est que ça te renvoie toi quand tu l'as pensé toi-même. Mais donc, pour partager un moment serein, quand tu as tes enfants, tu regardes d'un air qui te dit qu'ils pensent de toi que tu es le pire des enfoirés. Alors, il faut... c'est un exemple parmi 10 000, hein, je parle. Hein, c'est un exemple très simple. Mais il y a toujours des contentieux avec les gens avec qui on passe ces moments. Des contentieux. Il y a plein de sous-entendus, plein de trucs. Pour pouvoir partager ce moment, il faut avoir aussi confiance, être disponible sur le devenir de la relation qu'on a avec ces gens avec qui on partage. Cette confiance, c'est aussi un travail extrêmement profond. C'est pour ça que s'écrit trois fois le mot « jour » au sujet des repas de Shabbat. Parce que ça correspond à plusieurs aspects de cette confiance profonde. Il y a la confiance dans la subsistance, de la justice divine, ça c'est le repas de vendredi soir. Le pas de Seuda Shlishit, c'est la confiance dans le devenir. Le Maharal explique, c'est la confiance en vérité que je peux avoir totale dans les générations à venir. Une confiance dans ses enfants, que je peux partager un moment simple, sans attendre quelque chose d'eux. Sans attendre quoi que ce soit d'eux. Ça, pourquoi ? Parce que j'ai confiance dans le devenir. Le devenir est serein. Shabbat, c'est la dimension que sur terre, il y a une perfection. Cette perfection, je ne sais pas comment elle est possible. Je ne la comprends pas. Je ne la sais pas. Je ne sais pas comment elle est. Mais quand on dit Shabbat, Shalom, le mot Shalom, c'est la complétude qu'il y a une perfection sur terre. Même si je ne la comprends pas, même si je ne la vois peut-être pas, mais elle est possible. Donc on voit ici que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui, même en jeu, le bonheur, ce n'est pas le bonheur béat. Tu vois, par exemple, style... j'ai pas vu le film The Beach avec Leonardo DiCaprio, mais par contre, j'ai lu le livre The Beach. Est-ce que vous avez lu le livre The Beach qui a donné... c'est excellent, très top. C'est le, tu vois, c'est le fantasme, tu vois, du bonheur. Tu vois, la plage. La plage tropicale, on est tranquille, tout est bien, le bon sauvage. Ça, c'est pas le bonheur à la juive. Le bonheur à la juive, c'est le bonheur, c'est la base, je dirais, de la vie juive. Mais pour qu'il y ait ce bonheur, il faut construire cette émouna très très profonde. C'est quelque chose de construit, le bonheur. C'est pas un état passif. Le Shabbat, c'est quelque chose qui se construit. C'est qui se construit intérieurement. Voilà, ça c'est grosso modo ce que je voulais voir avec vous. Et ces passages qui sont sublimes, ces passages qui traversent les générations, qui traversent toute notre histoire, à la fois l'histoire d'un Israël et aussi l'histoire de tout un chacun. Question ? Vous voulez poser une question ? Oui ? Oui. Comment ? L'enfer dont on parle, c'est sur terre du vivant.
Ah, c'est du vivant.
Là, ce qu'on parle, c'est du vivant.
Il peut y avoir un jugement tant qu'on est vivant.
Là, ce dont on parle, c'est le parfois, Dieu dévoile sa justice sur terre. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que le prophète Sophania dit. Il y a un passage dans le Talmud qui dit que la justice, Akadosh Baruch Hu, laisse à l'humain et à l'individu et à la collectivité le temps de faire sa démarche. On te laisse du temps. Ce qu'on appelle Dieu est Erer Apaim. Erer Apaim, en français, ça s'appelle longanim, si je ne m'abuse. Longanim, ça veut dire il laisse du temps. Fais ton chemin. Je te donne plusieurs parties gratuites. Vas-y, tu as plusieurs parties gratuites. C'est comme dans Super Mario. Plusieurs parties gratuites. Vas-y, fais ton chemin. Tu fais des bêtises, la justice ne s'applique pas tout de suite. Tu fais des grosses bêtises, ça ne s'applique pas tout de suite. Pourquoi ? Je te laisse le temps de réfléchir, de voir. Tu as Rosh Hashanah, tu as Yom Kippour, machin, vas-y. Mais notre tradition dit un moment, ça s'appelle game over. C'est game over. Et là, c'est pas toujours rigolo. C'est pas toujours rigolo, le game over. Ça peut être, mais pas toujours. C'est ce qu'on voit ici. Pas toujours marrant. Pas toujours drôle. Oui.
Pourquoi il n'emploie pas le mot Israël et non pas Adama ? En gros, il dit qu'il va tout balayer de dessus de la face de la terre. Je ne comprends pas, c'est juste Eretz Israël qui a été dévasté, c'est pas la terre. La seule fois dans l'histoire où la terre a été dévastée, c'était pas Noé.
Oui.
Alors, est-ce est-ce que, alors, du coup, c'est deux questions en une. On est sûr que cette prophétie, c'était bien sur le premier temple, et pas, c'est une question peut-être bête, mais n'est pas sur la Shoah, par exemple, parce qu'en plus, on a le mot Shoah dedans. Et quand on lit en français, en tout cas, ce qui est écrit, on a plus l'impression que c'est une prophétie qui aurait pu être adaptée à ce qui s'est passé.
C'est vrai, c'est juste. Alors, justement, si tu veux, c'est ce que j'ai un petit peu introduit tout à l'heure, c'est que ce passage qui, historiquement, a été dit au sujet de la destruction du premier temple. Mais si les sages l'ont gardé dans les écrits Kodesh, pour toutes les générations jusqu'à l'avenue du Mashiach, c'est que c'est une portée transhistorique, transgénérationnelle. Et que, évidemment, nous, qui sommes 70 ans, 80 ans, après ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un écho particulier. Mais ça nous permet, quelque part, de je ne dirais pas de comprendre, parce que je ne sais pas si on peut nous comprendre, mais d'avoir un écho, un contexte sur ce que... sur tout ce que le peuple juif a pu vivre. Donc, ça parle de la destruction du premier temps, mais pas que. Pas que. C'est pas limité. C'est pas limité. Voilà. Bon. OK. Merci à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, j'ai développé ce qu'on a fait là. Je l'ai développé longuement, mais sur les trois repas. C'est toute la structure du livre, c'est sur les trois repas de Shabbat. J'ai développé dans tous les détails. Et voilà. Bonne soirée.